On va lire donc un texte où il est question d'homosexualité, un texte dans le Nouveau Testament où il en est question de façon assez explicite. C'est dans Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 1. Donc, vous savez, l'Épître aux Romains, c'est un chef-d'œuvre, si on considère cette Épître par rapport à tout le contenu. Certains estiment que c'est vraiment l'épître la plus, comment dire, glorieuse, étincelante de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, parce qu'il y explique vraiment l'évangile, il y explique vraiment la théologie derrière, et c'est en même temps une épître très pratique. Mais ce qui est étonnant, c'est que dès le premier chapitre, il y est question d'homosexualité. Alors on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. D'accord, vous y êtes tous. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. On va s'arrêter là pour la lecture. Alors, il y a 10 ans, il y avait un sondage qui avait été réalisé sur l'homosexualité, qui avait révélé que parmi les 18-24 ans, 82% de ces gens considéraient l'homosexualité, je cite, comme une manière acceptable de vivre sa sexualité. Donc il y a 10 ans, c'était les 18-24 ans, donc 10 ans plus tard, ces gens-là ont entre 28 et 34 ans, c'est pas compliqué. Ce sont eux aujourd'hui, cette génération-là, aujourd'hui, qui a des enfants, qui ont une vie active. À l'époque des étudiants, maintenant ils sont dans le monde du travail. Ce sont les gens qui commencent maintenant à avoir un rôle vraiment influent dans la société. Et donc j'imagine, j'ai pas pu consulter de sondage plus récent, mais j'imagine que cette statistique... soit c'est la même, soit elle est plus grande encore. L'homosexualité est considérée comme une manière acceptable de vivre sa sexualité. Je cite les termes du sondage. Et comme je le disais il y a quelques instants, de nos jours, le politiquement correct veut que l'homosexualité soit considérée comme une alternative légitime à l'hétérosexualité, n'est-ce pas ? Le mariage homosexuel, d'ailleurs, a déjà été légalisé dans 11 pays. 11 pays en Europe, en tout cas, 11 pays dans le monde, pardon. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, le Canada, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande, l'Argentine et le Danemark. Certaines églises, d'ailleurs, qui ont l'étiquette chrétienne, acceptent de célébrer des unions homosexuelles, notamment dans ces pays-là, bien sûr, et reconnaissent même aux ministres du culte, c'est-à-dire les pasteurs, les évêques, pour certaines dénominations, le droit d'être homosexuel et de l'afficher, voire même de vivre en couple avec quelqu'un du même sexe. Puis de l'autre côté de l'éventail, si vous voulez, on a des pays encore où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite, quelques autres pays, je ne les ai pas tous notés. Apparemment, le Nigeria, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est appliqué non plus. La partie islamique, d'accord. En tout cas, il y a 6 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de mort. Mais en tout, il y a entre 80 et 100 pays qui condamnent l'homosexualité de manière pénale. Et enfin, en fait, en France, quand moi je suis né, l'homosexualité était illégale, d'après le code pénal. Ça a été légalisé en 82, il y a 30 ans. Alors, au milieu de ces opinions contradictoires à l'extrême, il faut bien sûr qu'on se pose la question, nous, jeunes adultes, qu'est-ce qui va déterminer notre position sur la question, notre opinion? Et peut-être que vous avez déjà une opinion bien fondée aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde l'opinion de vos amis, de vos camarades à la fac, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le regard que la Bible nous invite à porter sur l'homosexualité, notamment à travers ce passage. Et on va voir une chose qui est très importante à garder à l'esprit quand on débat de ce sujet, c'est que ce qu'on pense de l'homosexualité dépend fondamentalement de notre vision du monde, notre vision plus globale du monde. Et dans ce texte, Paul cite l'homosexualité, vous l'avez bien compris, hein, c'est assez clair, assez explicite de quoi il parle. Il cite l'homosexualité comme étant un phénomène qui découle de quelque chose de plus large, d'un problème plus important. Pour Paul, dans ce texte, on voit que l'homosexualité n'est pas le problème. L'homosexualité, c'est le symptôme du problème, ou un symptôme du problème. Alors vous voyez que pour bien comprendre ce que la Bible dit sur l'homosexualité, il faut comprendre quel est le problème. Et justement, pour cela, dans ce texte, on va voir quel est le rapport de l'homosexualité vis-à-vis de différentes choses, notamment de l'ordre de la création, vis-à-vis de la dignité de l'homme, vis-à-vis de la justice de Dieu, mais on verra aussi dans un dernier temps quel éclairage l'Évangile porte sur cette question de l'homosexualité. D'accord? Alors vous avez vu peut-être en lisant que la première chose que fait Paul à partir du verset 18, en tout cas, c'est d'exposer le principe de l'universalité du péché. Il est clair, notamment dans ces trois premiers chapitres de son épître aux Romains, que tout le monde est pécheur, il n'y a pas de distinction, mais il ajoute particulièrement, spécifiquement dans ce passage, qu'il n'y a pas même d'excuse pour notre péché. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il y a dans la nature suffisamment d'indices qui pointent vers Dieu pour que personne puisse dire qu'il n'était pas au courant. C'est ça qu'il dit. Ils sont inexcusables. juste après avoir dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire quand on considère ces choses dans la nature, dans la création qui se déploie sous nos yeux du matin au soir. Donc personne n'a d'excuses. Le problème, voyez-vous, d'après Paul, ce n'est pas que les gens ne savent pas qu'il y a un Dieu, c'est plutôt qu'ils savent qu'il y a un Dieu, mais qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu et ils ne s'intéressent pas à lui. Vous avez vu ce qu'il dit, verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Voilà pourquoi ils sont inexcusables. Il vous est sûrement déjà arrivé d'acheter un nouvel appareil high-tech, une télévision, un ordinateur, un téléphone portable dont vous ignoriez le fonctionnement. En tout cas, vous avez peut-être une idée de comment ça fonctionnait, mais vous savez pas exactement à quoi servent tous les boutons. Et moi, parce que je suis un homme et en plus un homme orgueilleux, j'ai tendance à vouloir essayer de me débrouiller tout seul. J'appuie un peu sur les boutons, j'essaie de voir comment ça marche et de deviner intuitivement comment ça va fonctionner. Alors qu'il y a beaucoup plus facile à faire, c'est de consulter le manuel d'emploi qui généralement est livré avec l'appareil dans la boîte, n'est-ce pas? Le problème, c'est que naturellement, les êtres humains ont tendance à fonctionner comme ça. On est dans un monde qui, semble-t-il, a du sens, mais on essaye de découvrir le sens de ce monde, le sens de notre existence, comment on doit fonctionner, bah, de façon intuitive, en tâtonnant à droite, à gauche, en essayant un peu tous les boutons, alors que on devrait plutôt être porté à chercher le mode d'emploi qui, en toute logique, nous aurait été livré par le concepteur du monde, par l'ingénieur intelligent qui a créé ce monde. La Bible dit que tous les hommes ont en eux la pensée de l'éternité. Hein, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 3. La pensée de l'éternité, une intuition de l'éternité, finalement, la pensée qu'il y a un Dieu, c'est une pensée qui nous travaille au fond, et c'est ça qui nous force à trouver des réponses. Mais voilà le problème, à cause de notre péché, nous résistons à toute idée qui puisse compromettre notre autonomie. C'est ça, finalement, l'orgueil, l'effet de l'orgueil. Hein. Et c'est pour cette raison, et c'est curieux, hein, mais une écrasante majorité d'êtres humains croient en Dieu, si vous leur posez la question. Mais en même temps, ils ne s'intéressent pas à ce que Dieu a à dire, ou bien ils rejettent les idées qui leur semblent erronées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas compatibles avec leurs intérêts. Oui. Alors c'est pour ça que Paul y dit, verset 23, que les hommes ont fini par fabriquer leur propre Dieu. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il y a en première position parmi leurs dieux ? Verset 23, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors on fabrique nos propres dieux, mais en première position parmi ces dieux, il y a l'homme. Parce que manifestement, on est plus intelligent que les animaux, on a des capacités particulières, etc. Pourquoi est-ce que Paul affirme ce principe, donc ? Parce qu'il veut montrer que face à ce qu'on appelle la révélation générale ou la révélation naturelle, le fait qu'on peut savoir des choses sur Dieu à partir de ce qu'on observe dans le monde, à partir de ça, eh bien, il n'y a pas de neutralité possible. Ils sont inexcusables. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. On vit dans le monde que Dieu a créé, donc on n'est pas dans un terrain neutre. Notre conscience n'est pas neutre, notre existence n'est pas neutre. Tout ça vient de Dieu. Et donc, on a un choix. Soit on se rend compte qu'il y a un Dieu, et par définition presque, qu'on est 100% redevable envers lui, pour tous les domaines de notre vie, y compris nos opinions, y compris nos goûts, notre sexualité bien sûr. Ou bien, à l'inverse, on se rend compte qu'il y a un Dieu, mais parce que ça menace notre autonomie, on choisit de le remplacer par autre chose pour préserver nos intérêts. Et voilà le problème fondamental, d'après Paul, de tous les hommes. Voilà quelle est notre tendance à tous. Alors ensuite, Paul parle des conséquences de cette tendance. Alors vous voyez, on n'a pas encore vraiment parlé de l'homosexualité. Hein, mais pour Paul, dans ce texte, vous avez vu qu'il cite l'homosexualité comme étant le symptôme d'un problème. Il faut qu'on comprenne le problème. D'accord ? Alors la conséquence de cette tendance à vouloir remplacer Dieu par d'autres choses qui protègent nos propres intérêts, qui protègent notre autonomie, la conséquence, dit Paul, c'est que l'homme a hérité du coup d'une intelligence pervertie. L'homme a remplacé la référence ultime et infaillible du Dieu créateur par des références faillibles, les références des dieux qu'il a lui-même créés, que l'homme lui-même a créés. Et il se place du coup lui-même, l'homme se place lui-même comme référence ultime. L'homme a créé un système de pensée qui semble cohérent, mais en fait qui est fondé sur le sable. D'accord ? Ils se sont égarés, dit Paul, dans de vains raisonnements. Ça semble cohérent, ça semble intelligent, ce sont des raisonnements. On utilise notre intelligence. Mais en fait, tout ça est fondé sur le sable, parce qu'on a remplacé le Dieu infaillible avec des images faillibles qu'on a créées nous-mêmes. Tout ça parce que l'homme voulait préserver son autonomie et préserver le droit qu'il voulait avoir de suivre ses désirs. Eh bien, ce qui est surprenant dans ce texte, c'est que Paul nous dit « L'homme a voulu suivre ses désirs. » Eh bien, Dieu l'a laissé faire. Dieu l'a laissé suivre ses désirs. Dieu a donné à l'homme la liberté de le faire. Et il lui a donné la liberté de le faire non pas parce qu'il est d'accord avec ses désirs, mais parce qu'il a doté l'homme d'un libre arbitre. Il a laissé l'homme faire. Il a laissé responsable, assumer la responsabilité de ses actes, une responsabilité que Dieu lui avait donnée. Alors Paul dit que l'homme se retrouve vraiment dans une situation presque ironique, c'est pour ça qu'il emploie des termes forts, il dit qu'ils sont devenus fous. Au lieu d'être sages, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Finalement, c'est comme quelqu'un qui est dépendant de la cigarette, et qui va au magasin, au bureau de tabac, qui achète un paquet de cigarettes, et dessus, qu'est-ce qu'il y a de marqué aujourd'hui en grand, sur des grandes étiquettes ? Fumer tue ! Exactement. Comment tu sais ça ? Fumer tue ! C'est marqué en grand, lettres noires, fond blanc, machin, tu peux pas rater le message. Mais bon, le désir de la cigarette est plus fort. C'est ce qu'on appelle une addiction. On sait avec notre intelligence, quelque part, que fumer-tu, ça nous est marqué devant nos yeux, noir sur blanc. Mais le message du désir, c'est quoi? Fumer, c'est agréable. Fumer, ça fait du bien. Et qu'est-ce qu'on finit par faire, souvent? Enfin, en tout cas, sans doute les fumeurs, je ne sais pas. Ils finissent par rationaliser ce désir, pour accorder leur intelligence au désir. Vous voyez? Non, mais ça va, ça tue, mais ça tue pas tout de suite. J'arrête demain, vous voyez. On rationalise le désir que l'on a et on finit par faire le choix de fumer malgré l'avertissement sur le paquet. Mais l'avertissement ne disparaît pas pour autant, hein, et ni les conséquences fâcheuses pour la santé. L'homme veut être autonome, il veut protéger son autonomie, mais Paul dit que cette sagesse humaine est folie. Elle est folie parce que si l'homme était autonome, qu'est-ce qui conditionnerait ses choix ? Il suivrait ses désirs, normal. Il suivrait ses passions. Il suivrait ses convoitises. Toutes ces choses qui sont affectées par le péché. Nos désirs sont mauvais, ou au moins en partie mauvais, parce que nous sommes des êtres déchus. Nos convoitises sont mauvaises. Nos passions sont mauvaises, parce que nous sommes des êtres déchus. Donc si on agit uniquement selon notre autonomie, on va être enclin à faire les mauvais choix à cause de notre péché. Et quel est le résultat ? On finit par se faire du mal. On se nuit à soi-même quand on suit nos désirs, nos convoitises, nos passions qui sont toutes déchues, vous voyez? Mais le texte dit que Dieu permet à l'homme de faire les mauvais choix. Il ne lui en donne pas le droit, mais il lui en donne la liberté. Vous voyez la nuance entre les deux? Et d'ailleurs, c'est présenté comme un jugement de la part de Dieu. Tu veux être autonome? Vas-y! Mais sachant qu'en étant autonome, on se fait du mal. Et c'est pour ça qu'on se châtie soi-même. On se juge soi-même. Alors, Paul a donc affirmé ces deux principes. Un, l'homme préfère adorer la créature au lieu du créateur, parce que ça lui permet de protéger son autonomie, de suivre des dieux qui sont adaptés à ses intérêts. Premier principe. Deuxième principe, à cause de cela, l'homme a remplacé la vérité par le mensonge, la vérité de Dieu par le mensonge de l'homme. L'homme se retrouve orienté par ses désirs plutôt que par l'intelligence de Dieu. L'homme répond à ses convoitises plutôt qu'à la volonté divine. C'est ça, la folie, pour Paul. Et c'est dans le cadre de ces deux principes universels, d'accord, qui concernent tout le monde, hein, tous les êtres humains, à l'exception de Jésus. C'est dans le cadre de ces deux principes universels que Paul en vient à mentionner l'homosexualité. Et il présente l'homosexualité comme un exemple ou un symptôme de ce problème. Et le fait que Paul mentionne cet exemple, c'est une illustration de ce qu'il est en train de dire, en fait. Hein ? C'est pas le sujet principal de son discours. Il le mentionne comme une illustration, comme un exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Paul, c'est un exemple emblématique. C'est un exemple, si vous voulez, qui en dit long sur le problème qui est à la base de ce symptôme. Et Paul utilise des termes durs pour qualifier la pratique homosexuelle. Et je ne fais que citer la Bible, je dis ça pour ceux qui vont écouter sur Internet, je ne fais que citer la Bible. Hein. L'homosexualité, selon l'apôtre Paul, c'est un acte contre nature, verset 26. Ça consiste en des passions déshonorantes, toujours verset 26. Et c'est une infamie, verset 27. À travers ce langage, on voit au moins une chose qui est claire, c'est que l'homosexualité, en tant que symptôme de la chute du genre humain, en tant que symptôme de ce désir d'autonomie de l'homme, eh bien que l'homosexualité est affreuse aux yeux de Dieu. On est d'accord? D'après la Bible en tout cas. Pourquoi? Parce que d'après la Bible, toujours, elle porte atteinte à la dignité de la création, à la dignité de l'homme, et donc à la dignité de Dieu, à sa gloire même. Imaginez un vase en cristal superbe. Je ne sais pas si Yvette a un vase en cristal très très précieux quelque part qui traîne. Un truc délicatement sculpté, magnifique, un truc d'ailleurs qui a été transmis de génération en génération depuis ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, qu'il a fabriqué lui-même en l'honneur d'un enfant décédé. Est-ce que tu serais d'accord que Gilles utilise ce vase pour récupérer l'huile de vidange de sa BMW? Pas trop, hein. Et pourtant, ça marcherait bien, hein. Un vase comme ça, ce serait plutôt fonctionnel. En plus, c'est transparent, on peut voir à travers si l'huile est bien sale ou pas. Bon. Mais vous imaginez bien que faire cela, de cette manière, ce serait porter atteinte à la destination originelle du vase, ce pourquoi il a été fabriqué. Ce serait porter atteinte à la dignité du vase lui-même, qui est si beau, si délicatement sculpté. Et ce serait porter atteinte, du coup, à la dignité de celui qui a façonné ce vase, qui a mis tant de travail. Vous voyez ? Eh bien, de la même façon, avoir des relations homosexuelles, c'est détourner l'usage originel de la sexualité. C'est en détourner son usage originel. La Bible est très claire, et on l'a vu encore ce matin avec Jonah. La sexualité est un don de Dieu qui est absolument réservé aux couples mariés, hétérosexuels, monogames. La sexualité est précieuse aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle occupe justement... Comme on est d'accord d'ailleurs avec le monde, Jonah l'a dit, la sexualité occupe une place importante dans l'humanité, pour l'homme. La sexualité, c'est quelque chose d'important. On est d'accord avec ce que dit le monde par rapport à ça. C'est quelque chose de bien, fondamentalement, la sexualité. Elle occupe une place importante donc dans l'humanité, dans l'ordre de la création. Et c'est pourquoi les déviances d'ordre sexuel sont particulièrement condamnées dans la Bible. C'est vraiment intéressant de remarquer ça. Les déviances d'ordre sexuel sont particulièrement condamnées dans la Bible. La peine pour l'homosexualité dans l'Ancien Testament est autrement plus sévère que la peine pour un vol, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors Paul cite l'homosexualité dans un texte qui parle avant tout de l'universalité du péché, parce que c'est un des exemples les plus flagrants, un exemple emblématique de la façon dont le péché dans le monde pousse l'homme dans une direction radicalement opposée à l'ordre de la création, opposée à la dignité de l'être humain. L'homme se fait du mal, il détourne ce pourquoi il existe, et opposé à la justice de Dieu. Paul dit donc, pour résumer ce passage en une phrase, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, dont l'homosexualité est un symptôme. Voilà, finalement, tous ces versets résumés à une phrase. La colère de Dieu se révèle contre toute injustice, c'est-à-dire tout péché, dont l'homosexualité est un symptôme emblématique. Mais Paul, dans ce passage, livre aussi une promesse, c'est là-dessus que je voudrais terminer, une promesse, et cette promesse est contenue dans les deux premiers versets qu'on a lus, versets 16 et 17. Et il dit, « Tandis que la colère de Dieu se révèle du ciel » au verset 18, au verset 17, le verset précédent, c'est la justice de Dieu qui se révèle, et qui ne se révèle pas du ciel, qui se révèle dans l'Évangile, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire concernant l'homosexualité ? Eh bien, la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile, d'abord parce que dans l'Évangile, on voit combien Dieu déteste le péché, et donc combien Dieu est juste et ne tient pas les pécheurs pour innocents. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la croix, et quand on regarde l'agonie du Seigneur Jésus, on voit ce que mérite le péché. Le péché mérite vraiment le jugement de Dieu, un terrible jugement de la part de Dieu. Ça nous parle donc de sa justice, n'est-ce pas ? Et on comprend pourquoi la Bible emploie des termes durs à l'encontre de l'homosexualité dans ce passage, mais à l'encontre du péché en général dans toute l'Écriture. Mais la Bible dit que, par amour pour les hommes, vous le savez, Dieu a livré son propre Fils pour qu'il prenne sur lui le châtiment que nous méritions. La justice de Dieu est révélée à la croix aussi parce que c'est à la croix que la justice de Dieu gagne la partie, que la justice l'emporte. Parce que Jésus est ressuscité, par sa résurrection, il a manifesté sa victoire définitive sur la puissance du péché et sa capacité parfaite à lui de vaincre le mal. Et puisque Jésus a vaincu le mal et qu'il est aujourd'hui au-dessus de toute puissance imaginable, tous ceux qui se confient en lui peuvent d'une part être pardonnés pour leur péché, mais d'autre part délivrés de la puissance du péché. Pardonnés pour leur péché, mais aussi délivrés de la puissance du péché. Et quand on accepte l'offre du Seigneur, quand on devient chrétien, on subit un changement radical. Notre autonomie et notre intelligence pervertie sont échangées contre l'intelligence de Dieu et contre une vie nouvelle. On devient une nouvelle créature que Dieu lui-même va conduire selon sa volonté par la puissance du Saint-Esprit qu'il donne à tous les croyants. Alors ça veut dire que Jésus a la puissance de transformer toutes nos passions, toutes nos convoitises, tous nos désirs, toutes nos déviances, toutes nos addictions. Et c'est ce qu'il veut faire. Parfois, il le fait soudainement. Il libère des gens d'addictions incroyables du jour au lendemain. Et parfois, ce n'est pas aussi soudain. Parfois, c'est long, c'est progressif. Mais tout ça, c'est quand même l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça veut dire, concernant l'homosexualité, que l'homosexuel qui se confie en Jésus-Christ est appelé par Jésus à renoncer à toute pratique homosexuelle, à renoncer à toute convoitise homosexuelle dans son cœur. Et c'est vrai que l'homosexualité a des causes diverses, hein, des origines diverses. Ça peut être causé par des choses physiologiques, ça peut être physiologique, ça peut être psychologique, ça peut être idéologique. Certains sont homosexuels parce que c'est leur philosophie de l'être. Il y a toutes sortes de raisons qui sont invoquées. On n'est pas là pour juger les raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces raisons n'est suffisante pour légitimer l'homosexualité aux yeux de Dieu. Mais en même temps, aucune de ces raisons n'est trop puissante pour résister au changement que Jésus peut opérer par l'action du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour les homosexuels aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils soient lapidés ou mis à mort, je vous le dis tout de suite. Mais ce que Dieu veut pour les homosexuels, c'est ce qu'il veut pour les hétérosexuels aussi. C'est que nous nous repentions de nos péchés et que nous placions en Jésus toute notre confiance pour qu'il conduise notre vie et pour qu'il nous transforme à son image par sa puissance et pour sa gloire. Alors je termine juste en vous disant qu'on a bien sûr la liberté, encore une fois pas le droit, mais la liberté de ne pas être d'accord avec ce que dit la Bible. En tant que chrétien, on a un devoir qui est de témoigner à la vérité. La Bible dit des choses qui sont vraies, on le croit en tant que chrétien, qui sont fiables. La Bible a un discours sur l'homosexualité, elle a aussi un discours sur des tas d'autres choses qui ne plaisent pas, un discours qui ne plaît pas aux gens aujourd'hui. Les gens ont la liberté de ne pas être d'accord avec ce que nous disons, ils n'en ont pas le droit, ils en ont la liberté, parce que Dieu ne leur donne pas le droit, mais la liberté. Mais notre devoir à tous, si nous reconnaissons les indices autour de nous qui pointent vers Dieu, c'est de nous intéresser à lui, et de ne pas faire le tri entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, parce que ça, c'est créer un Dieu à notre image, c'est créer notre propre Dieu. Notre devoir, c'est de chercher sa face, chercher à le connaître, et le laisser conditionner toute notre vie, nos opinions, nos goûts et notre sexualité.